Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce lundi 16 septembre 2013 avec Jean-Pierre dans les studios et Robert en duplex. Actualité internationale, bien sûr, tout d'abord, deux grands sujets de ce jour encore restent la Syrie, puisqu'il s'est passé un certain nombre de choses, pas tellement au plan militaire sur le terrain, ou alors on n'est pas trop au courant, mais au plan diplomatique avec les répercussions en France, puisque il y a eu une conférence qu'on a appelée de Genève 2 qui s'est tenue ce week-end. Alors figurez-vous, entre les Russes et les Américains, mais les Français n'étaient même pas conviés. Décidément, Hollande se donne beaucoup de mal pour apparaître comme l'organisateur de toutes les avancées dans le dossier, mais quand même, quand on fait une réunion pour convenir de quelque chose, on ne l'invite même pas, ce qui ne le décourage pas d'ailleurs. Mais alors, que s'est-il passé? Ben, on est tombé d'accord sur une procédure comme quoi Bachar el-Assad aurait une semaine pour lister la somme de ses armements chimiques et puis aurait après quelques mois, voire une année, pour les faire supprimer par des organismes autorisés. D'autres disent qu'il est surtout en train de les déménager au Liban et en Syrie, pendant qu'il est encore temps. Alors il y a ceux qui croient ou qui font semblant de croire à cette diplomatie parfaitement réussie d'une entente entre les deux puissances qui soutiennent, deux des puissances principales qui soutiennent el-Assad. Puis il y a ceux qui se disent que, ben, comme on l'a déjà connu et comme cette bonne guerre en diplomatie, il a en tous les cas échappé à une répression qui était annoncée, ce qui arrange bien les Américains qui n'avaient pas trop envie d'y aller. Et les Russes, on n'en parle pas, puisque pour eux, il n'était pas question que la Syrie soit attaquée dans son pouvoir. Donc il reste que Hollande, qui est bien déçu que les choses tournent comme ça, mais qui fait contre mauvaise fortune bon cœur et qui déclare que si on en est arrivé à cette formidable étape de négociation, c'est bien grâce à lui et grâce aux menaces qu'il avait, la pression qu'il avait fait monter il y a quelques semaines. Voilà où on en est pour l'accord diplomatique, on va dire. Quoi. Les Turcs font un peu la gueule. Enfin, ils se sont vengés aujourd'hui. Ils ont abattu un hélicoptère syrien qui était un peu trop dans leur espace aérien. Ils auraient bien voulu, puisqu'ils soutiennent les opposants à l'Assad, qu'il y ait un peu de carton et ça serait peut-être mis de la partie. Quoi. Enfin, voilà où on en est ce soir, en plus des, toujours bien sûr, 2 millions de réfugiés, 400 000 déplacés dans le pays, tout ça, ça reste une situation qui ne va pas évoluer rapidement, à supposer qu'elle évolue, puisque la guerre continue, même si les armes chimiques sont mises un peu de côté. Alors, oui, il y avait ce soir aussi le compte-rendu à l'ONU, à Ban Ki-moon, des experts qui ont analysé les armes. Ben oui, c'est des produits chimiques, ben oui, ils ont été tirés par des roquettes sol-sol, mais leur travail n'était pas du tout de dire qui a tiré. Donc on n'en est pas plus avancé sur ce sujet-là que ce qu'on savait déjà, non seulement depuis 15 jours, mais depuis 6 mois. Robert, tu as sûrement quelque chose à ajouter.
Oui, sur ce dernier aspect de savoir qui a tiré, on pense que les djihadistes ont pu eux aussi, alors peut-être d'une manière moins importante et encore que, utiliser ce procédé pour à la fois eh bien, brouiller les pistes et en même temps établir un peu plus fortement leur emprise sur l'ensemble du mouvement de rébellion. Et on a signalé que en fait des groupes de djihadistes avaient été interceptés en Irak alors qu'ils transportaient justement des éléments qui étaient des éléments constitutifs de ces armes chimiques. ce qui a fait dire, mais c'est très discret, ce qui a fait dire qu'effectivement, de toute façon, à défaut de les avoir utilisés, ils s'apprêtaient eux-mêmes à constituer des armes chimiques sur le terrain. À propos de cette situation des armes chimiques, là j'avais repris simplement les données de ce qu'est le cadre international concernant leur utilisation ou plutôt on va dire leur non-utilisation, leur destruction. Ça fait juste 20 ans, 1993, qu'avait été signée la convention donc pour l'interdiction des armes chimiques. En français, c'est le CIAC, C-I-A-C, 1993, oui, comme par hasard, ça fait juste 20 ans. Mais il n'est devenu opérationnel vraiment que quelques années plus tard. Et puis, après, on n'en a plus beaucoup parlé. Simplement, évidemment, l'affaire syrienne fait que le sujet redevient naturellement d'actualité. Ce que l'on sait, c'est que les pays avaient été amenés à déclarer leur stock. Alors là, effectivement, c'est un peu... chacun déclare ce qu'il veut, mais on était sur un chiffre répertorié par un organisme qui, sous le contrôle de l'ONU, était amené à procéder à la destruction de ce qui était déclaré. Aujourd'hui, c'est-à-dire, non, ça remonte, il y en a peut-être un peu plus aujourd'hui, en 2011, on estimait que sur 70 000 tonnes d'armes chimiques déclarées sur la planète, on n'a pas le détail de qui a déclaré quoi, 50 000 ont été détruites sous donc ce contrôle de spécialistes. 50 000, ce qui fait dire que ça représente, je crois, à peu près 70%. Mais ce qui s'est passé depuis, c'est que les Américains comme les Russes, là on retrouve justement la diplomatie internationale et puis les accords non dits. En fait, Russes et Américains avaient obtenu des prolongations pour déclarer et mettre les armes chimiques à disposition des destructeurs. Une prorogation de 5 ans. Donc, on retrouve à nouveau la situation où, effectivement, les grands de ce monde peuvent, selon le vieux principe de poids de mesure, s'accommoder avec les textes qui sont votés ici ou là. Les Syriens, dans un premier temps, ou même ces jours-ci, je crois, ont confirmé, prétendent disposer d'un millier de tonnes. Bon, c'est considérable, mais par rapport aux 70 000 tonnes qui ont été répertoriées et qui ne représentent sans doute même qu'une part du tonnage global mondial, c'est pas grand-chose, 1000. Bon, c'est effectivement beaucoup trop, et c'est même, il n'y en aurait-il que 100 grammes, que ça serait déjà de trop. Comme ce que tu as dit là, on ne sait pas trop si les Syriens avaient des grandes possibilités de mobilisation, de pouvoir se déplacer aussi bien vers le Liban. Il n'y a guère que le Liban, et puis peut-être effectivement aux frontières de l'Irak pour disperser leur armement, mais ça change rien parce que ils ont donné leur accord pour que ces milliers de tonnes, alors bon, qu'ils soient ici ou là ou ailleurs, c'est la dissémination ne serait intéressante, entre guillemets le mot intéressante, que si, comme par exemple ce qui s'est passé en Irak, si effectivement il y avait des frappes. Mais les frappes, on sait bien que concernant les armes chimiques, c'est pas évident de frapper, d'ailleurs où sont-elles. Elles sont disséminées. Je crois que eux-mêmes, les Syriens le disent, en 50 endroits différents. Donc ils cachent, ils disent qu'ils ne cachent rien. Voilà, donc c'est une situation très confuse, mais bon, heureusement, elle permet provisoirement, et on s'en réjouira, de faire que il n'y a pas d'intervention militaire casse-cou qui constituerait finalement un engagement alors quasi régional dans la guerre et peut-être même au-delà, et surtout un pays qui serait à nouveau réduit à des comportements de groupes et de clans, et qui sans doute verrait rapidement les mouvements radicaux islamistes les plus violents s'emparer d'une partie du pouvoir. Et puis ensuite on a vu que ce qui s'est passé en Irak, ce qui se passe en Libye. Et ce qui est intervenu, on parle beaucoup effectivement de l'accord russe-américain. Mais eux-mêmes, chacun, par exemple, les Russes ne sont pas seuls. Tous les BRIC sont contre l'intervention militaire. Beaucoup de pays africains étaient contre une intervention militaire. Une grande partie des pays latino-américains étaient également contre. Donc, c'était pour Obama, c'était une situation beaucoup plus compliquée qu'on ne l'a fait apparaître. Et dans cette affaire, les isolés, c'était pas russes, éventuellement russes et chinois, mais les vrais isolés, c'était bien Obama, et actuellement, eh bien, il reste Hollande qui, droit dans ses bottes, sera, je serai le dernier, mais s'il faut frapper, je frapperai. Si ça n'était pas une question de guerre et de mort, on dirait que c'est ridicule.
Voilà pour ce dossier. Ce soir, oui. On aura l'occasion d'y revenir, forcément. Tu as dit un mot, tu as parlé de l'Irak tout à l'heure. Oui, on peut dire aussi que l'Irak reste dans une situation extrêmement tendue. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de semaine sans qu'il y ait. Là, en trois jours, ce week-end, c'est 26 morts et 90 blessés. Des attentats menés contre les chiites. Et donc il y a cet affrontement permanent entre les sunnites et les chiites qui, un coup c'est les uns, un coup c'est les autres, font des dégâts considérables et maintiennent dans le pays un climat de guerre civile larvée. Donc on voit combien les choses ne sont pas réglées du tout à ce niveau-là, quoi. Et puis, de quoi on voulait parler ? La Somalie, aujourd'hui, il y avait une réunion à Bruxelles avec les, on appelle ça les bailleurs de fonds, c'est joli comme nom, hein, les pays divers et variés, surtout européens, qui sont prêts à soutenir le gouvernement qui a été élu il y a un an de Somalie, pour essayer de reconstruire le pays, et puis peut-être aussi arriver à remettre une certaine organisation administrative, militaire et policière face aux extrémistes musulmans auxquels ils ont affaire. Ils appellent ça les Shabab, quoi, qui ne sont pas du tout éliminés. Et bon, à un moment, on disait que le fait que le gouvernement n'en venait pas à bout, c'était un point de blocage pour l'aide international. Aujourd'hui, il semble qu'on a passé outre et qu'on donne quand même à ce gouvernement les moyens qui va les utiliser militairement contre ses opposants, bien sûr, mais peut-on espérer peut-être aussi pour organiser un peu l'administration, l'économie du pays et le sortir de la misère endémique dans laquelle il est plongé.
Sur ce Parmi sujet, les grands fléaux destructeurs de l'humanité, il y a les guerres, on vient de parler d'un aspect régional de la guerre, mais qui peut déboucher sur beaucoup plus grave que cela, mais il y a aussi le nucléaire, et visiblement du côté du Japon, qui subit comme d'habitude des typhons, mais qui, par-delà les typhons, n'arrive pas à colmater les brèches de Fukushima, et semble-t-il toujours des produits irradiés, en général c'est de l'eau, c'est cette fameuse eau qu'il faut en permanence déverser pour refroidir le réacteur, et puis cette eau qui suit ensuite, qui est contaminée, qu'il faut ensuite stocker, et puis le stockage se fait dans des conditions déplorables, avec des constats de fuite, et puis naturellement, les fuites, ça retourne dans le sol, les nappes phréatiques, et puis ça rejoint même, ça rejoint l'océan, et puis avec toutes ses conséquences. Voilà, alors aujourd'hui, contrairement à ce qui est dit, un jour sur deux, c'est peut-être les jours pairs. TECPO et le gouvernement disent que ça y est, la situation est sous contrôle, et les jours impairs, elles cessent d'être sous contrôle. Bon, c'est pas une manière un peu caricaturale de dire ce qui se passe, c'est pour dire la plus totale situation grave, à savoir que rien n'est maîtrisé, et finalement... Les Japonais sont tellement, on a l'impression, paniqués qu'ils ont même éteint le seul réacteur qui était en fonctionnement. Alors, on n'a pas d'information pourquoi ils l'ont éteint. Est-ce qu'ils viennent de constater des choses nouvelles ou c'est la situation psychologique et morale est telle dans le pays qu'il fallait absolument rassurer d'une manière ou d'une autre les Japonais en stoppant ce dernier avatar de leur industrie nucléaire. Et la seule bonne nouvelle, si c'en est une, c'est que malgré une baisse de 30%, près donc de fourniture électrique, c'est 30% qui était la fourniture nucléaire électrique au pays. Malgré donc cette réduction de 30% de la fourniture d'électricité, eh bien le pays continue à tourner. Alors bizarrement, même les journalistes européens, qui sont pour la plupart plutôt, on va dire, favorables au nucléaire, on pense surtout aux Français, puisqu'ici on a la presse française en français, ne s'intéressent pas beaucoup à savoir comment les Japonais arrivent à vivre, ma foi, sans retourner à la bougie. Enfin, si, peut-être qu'il aura fallu utiliser un peu les bougies au tout départ, là, quand Fukushima s'est arrêté. Mais comment le pays tourne et produit peut-être moins qu'avant, c'est peut-être plus une grande puissance industrielle et commerciale, un peu ralentie. Mais le Japon tourne. Alors s'il peut tourner, d'autres pays et la France pourraient peut-être très bien tourner sans le nucléaire.
Ouais, à propos de la tempête, là, le typhon qui s'appelle Mani, hein, si j'ai bien compris, ce serait comique si c'était pas aussi grave et dramatique, mais ils publient des communiqués. Alors là, ils viennent de rassurer tout le monde en disant qu'ils avaient attaché avec des ficelles très solides les conduites d'eau, les cuves, les pompes, enfin bref, le typhon pouvait arriver, il se passerait rien à Fukushima, tout était sécurisé. Comme d'habitude, bien sûr. Voilà.
Il évoque comme une grande découverte qui serait efficace, c'est l'utilisation de l'azote refroidi, c'est ça?
L'azote liquide, oui, qui est efficace pour geler le sol, hein, mais après, il faut... C'est des travaux énormes, quoi, gigantesques. Est-ce que... On ne sait pas où est la com et où est la technique dans tout ça. On a quand même du mal à suivre. Ils font rien d'ailleurs pour nous renseigner.
Il faudrait que je regarde au marché des matières premières à Londres si le prix de l'azote part en flèche.
Il est en train de grimper. Allez, on parle un peu de l'Europe. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en Europe aujourd'hui et ces jours. Ben, la Grèce, hein, aujourd'hui, il y avait manifestation et 5 jours de grève. Qui sont annoncés contre les mesures du gouvernement, qui s'en prend sur les instructions de la fameuse Troïka. Suppression de 25 000 fonctionnaires d'ici la fin de l'année, dont déjà la moitié tout de suite. Et en attendant de les supprimer, on a réduit leur salaire de 25%. D'ici la fin du mois, 2 500 de moins. et 4000 licenciés, donc avec un an de seulement de chômage devant eux. Donc c'est une attaque frontale contre les fonctionnaires. Du coup, les instituteurs, les enseignants, les médecins sont tous dans la rue. La Grèce est maintenant un pays où 28% des actifs sont au chômage, et pour ce qui est des moins de 25 ans, c'est 60%, quoi. Donc c'est une véritable catastrophe au point de vue social, hein, et les banquiers s'en accommodent très bien, bien entendu, un point qui continue leur croisade dans le même style. Aujourd'hui, ils allaient en Portugal où ils veulent essayer de prendre des mesures similaires, quoi. Les Polonais, quant à eux, sont aussi soumis à la pression, et du coup, il y avait 100 000 personnes à Varsovie dans les rues à l'appel des syndicats, après déjà 4 jours de protestation, contre le problème de la situation sociale dans laquelle on met les gens. Alors les Polonais ont un SMIC à moins de 400 euros, une retraite à 67 ans, un temps de travail qui augmente, et apparemment ça suffit toujours pas pour les capitalistes européens. Voyez donc qu'on a un avenir radieux si on va dans le même sens, toujours sans satisfaire nos dirigeants libéraux qui n'arrêtent pas d'en demander, quoi. Alors il y a une menace de grève générale en Pologne, il y a un ras-le-bol général qui s'exprime dans la population, quoi. La Roumanie, c'est autre chose, enfin autre chose et la même chose, on en a parlé la semaine dernière, c'est plus un problème écologique et social, puisque 20 000 personnes encore ont manifesté ces derniers jours contre la mise en service de ces mines d'or cédées dans des consortiums qui relient l'État et les capitalistes canadiens. Donc pour s'opposer à ces mines d'or à ciel ouvert qui engendreraient des tas de nuisances, des gens à faire fuir de chez eux, et aussi des centaines d'or. Là, c'est pas des armes chimiques, mais ça vaut, hein, puisque c'est du cyanure par centaines, milliers de tonnes qu'on utilise pour récupérer l'or dans le minerai. Donc, grosse opposition des Roumains à ce projet-là, quoi. Voilà, tu avais peut-être d'autres commentaires.
On peut faire un petit coup d'œil sur les élections en Allemagne. Ouais. Hier, on votait dans le Land de Bavière, qui, on le rappellera, est une sorte de puissance, d'État dans l'État. Et en Bavière, eh ben, c'est un fief de la droite, même de la droite plutôt dure. C'est la CSU, qui donc est une des branches de la CDU, et qui a, comme attendu par les statisticiens et sondeurs, gagné ses élections, et qui, par le jeu du bonus au gagnant, va avoir la majorité absolue au Parlement du Land de Bavière. Les autres partis, le SPD, c'est pas la déroute, hein, donc les sociodémocrates sauvent les meubles assez facilement, les Verts sont là. C'est l'habituel appui
FDP.
De la droite, c'est-à-dire
FDP.
Les libéraux, qui, eux, semble-t-il, font les frais de la situation politique qui est très clivée entre de la droite et la gauche, et que cette fois-ci, on en a en Bavière donc la confirmation. On l'avait vu d'ailleurs dans d'autres votes, dans d'autres landes, que le FDP finalement est en voie de disparition, parce qu'il n'est pas nécessaire aux deux coalitions, soit de droite, soit de gauche, quand ce n'est pas d'ailleurs une proposition d'Union nationale qui se profilera la semaine prochaine, après l'élection au plan national. Une élection au plan national où, effectivement, parmi les dirigeants européens, après avoir beaucoup critiqué Merkel, souhaitent que son parti gagne. Il faut rappeler que l'Allemagne, ça n'est pas ce n'est pas une constitution présidentielle qu'on vote, on élit des représentants des partis, et que généralement sait, le responsable, le chef du parti qui gagne l'élection, le plus fort, qui est chargé ensuite de former le gouvernement. On rappellera qu'il y a bien un président de la République, qui d'ailleurs n'est pas élu directement par le peuple, mais élu par les parlementaires des deux assemblées, et qui n'a pas de pouvoir, un peu comme c'était le cas des présidents de la République en France sous la troisième et la quatrième République. Donc tout le monde se tourne, tout le monde, enfin les politologues, les politiciens veulent visiblement que Merkel, malgré tout ce qui a pu être dit sur elle, y compris à droite, mais bon, reste au pouvoir. Alors à gauche, on souhaiterait que la CDU perde les élections ou ne soit pas en position de pouvoir gouverner, et que une coalition, alors c'est ce que dénonce la droite, une coalition verte, rose et même avec et rouge, puisque Dilay qui malheureusement le parti de la gauche de gauche ne progresse pas beaucoup. Il a connu des problèmes internes, il a perdu récemment un de ses grands leaders qui est mort comme ça, et qui donc n'arrive pas à engranger un électorat. Mais néanmoins, une coalition SPD verte et D-like n'est pas non plus écartée. Du moins, c'est ce que fait courir comme bruit la CDU pour amener les électeurs et les électrices à voter pour eux, avec un programme politique qui on avait compris que Merkel avait un peu, on va dire, adouci sa rigueur, notamment concernant la Grèce. Bon, tu viens d'en parler. En fait, on s'aperçoit qu'à travers la Troïka, les Allemands ont encore une énorme importance et un poids décisif sur ce qui peut se faire en matière de rigueur et d'austérité. Voilà, peut-être d'autres idées sur cette situation en Allemagne.
Non, mais t'as bien tout dit, alors j'ai rien à ajouter, effectivement. Fait une pause musicale, on doit retrouver...
Peut-être simplement un mot encore sur l'Europe. Le Parlement européen, qui visiblement a beaucoup de mal à faire valoir son autorité, vient à proroger au 8 octobre une décision, le vote sur une limitation qui concernerait les fumeurs. Hein. Il y avait un débat au Parlement européen, et puis le lobbying a fonctionné à fond, et donc la droite, qui est majoritaire au Parlement européen, a fait que ce débat qui devait avoir lieu avec vote demain mardi, est reporté au 8 octobre et peut-être au calende grec.
Il y a dû avoir une belle distribution de chèques.
Oui.
Voilà, pause musicale. Allez, on va remonter le moral des Japonais. On va leur offrir l'orage de Brassens, bien sûr, par bon public.
Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer des dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris de putois, allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit. Ma voisine affolée vint cogner à mon nuit en réclamant mes bons offices.
Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié. Mon époux vient partir faire son dur métier. Pauvre malheureux,
glissant le nom de Benjamin Franklin. Je l'ai mis en lieu sûr entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste. Toi qui sèmes des parts à tonnerre à foison, que n'en as-tu planté sur ta propre maison? Erreur, on ne peut plus funeste. Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs, l'abeille ayant enfin conjuré sa frayeur et recouvré tout son courage, rentra dans ses foyers faire sécher son mari en donnant rendez-vous les jours intempéries. Rendez-vous au prochain orage. À partir de ce jour, je n'ai plus baissé les yeux. J'ai consacré mon temps à contempler les cieux, à regarder passer les nuées, à guetter les stratus, à lorgner les nimbus, à faire les yeux doux au moindre cumulus. Mais elle n'est pas revenue. Avait tant fait d'affaires, tant vendu ce soir-là de petits bouts de fer, qu'il était devenu millionnaire et l'avait emmené vers les cieux toujours bleus, des pays imbéciles où jamais il ne pleut, où l'on ne sait rien du tonnerre. Dieu fasse que ma complainte aille tambour battant, lui parler de la pluie, lui parler du gros temps auquel on a tenu tête ensemble, lui compter qu'un certain coup de foudre assassin dans le mille de mon cœur a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble.
L'orage par banc public, vous écoutez bien Radio Canus, 102.2 MHz, le plus rebelle des radios, le Canu Info. Du lundi 16 septembre 2013, la rubrique nationale, Robert en duplex, Jean-Pierre dans les studios. On va parler d'un tas de choses. On commence par quoi, Robert ?
Peut-être ce qu'on aurait peut-être pu le faire d'ailleurs en démarrant, bien qu'on n'a pas le souci d'être un journal nécrologique, mais on n'a pas parlé du décès d'Albert Jacquard. Et effectivement, sur tous les sujets qu'on évoque, on pourrait dire, eh ben, Albert Jacquard était du côté de ceux qui se battent, que ce soit le nucléaire, que ce soit les OGM, que ce soit, enfin,
et sans logique,
etc. Il était pas, il y était, oui.
Ah oui, coup de chapeau, hommage, lui qui a été un homme de radio pendant une dizaine d'années, de 6h moins 5 à 6h le soir sur France Q, beaucoup de réflexion, de rubrique.
Et France Culture, il y a 2 ans, je crois, lui avait donné... Il faisait 2 minutes presque tous les soirs de la semaine.
Ah oui, c'est ça.
Vers 6h avant
c'est
le
C'est ça dont je parle, hein. Ça a duré 10 ans.
Ah, hein. C'est ça, oui, c'est ça, d'accord, voilà.
Alors, la fête de l'humain, tu n'y étais pas, moi non plus. On en a entendu parler. 480 000 personnes, je crois, quand même, et énormément de choses, énormément de
débats. J'ai pas vu de chiffres. Quel chiffre tu donnes, toi ?
480 000, dit l'humain.
Donc, quasi le demi-million, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que le système, bon, puisque finalement, ils ont eu aussi de la pluie, et notamment, je crois, le vendredi, et le samedi surtout, le dimanche, je crois que ça a été. C'est le système qui fait que... disons, les entrées sont déjà vendues grâce à la vignette. La vignette, eh ben, c'est le travail de tous les militants et de tous leurs sympathisants qui placent ce petit carré pour 20, c'était 21 prix maxi, mais il y avait des prix inférieurs et même gratuits pour les plus jeunes. 21 €, je crois, c'était le prix de la vignette cette année. Donc, on va dire qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, on peut considérer que bon, il y a au moins déjà cette sécurité financière, parce que c'est un événement qui coûte tellement cher. Je voyais ce titre, je prends ce titre finalement de, à l'intérieur de l'humanité d'aujourd'hui qui rapporte largement à la fois les aspects culturels, les aspects musicaux, les aspects politiques nombreux de cette fête. Et ils avaient trouvé ce très joli titre, et mettait fête pluvieuse, fête heureuse. Alors voilà, ben pourquoi pas, hein, fête pluvieuse, fête heureuse.
Comme les mariages.
Sinon, l'humanité d'ailleurs déplore que, comme ils disent, cet événement politique de rentrée, à la fois le plus important quantitativement et aussi le plus populaire, eh bien, a été non pas boycotté, mais elle a été littéralement peu traitée dans les médias, voire même complètement détournée. Certains médias se contentant de dire attention, ça va être le grand combat de boxe entre Mélenchon et le Parti communiste, quoi. Certains ne voyant que ça dans cette fête. Sinon, effectivement, il n'y a pas eu vraiment justement, alors Maïté dit, ben voilà, tant pis, les gens qui croyaient que les gens allaient s'empoigner, eh bien ça n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu, bon, je pense que le parti de gauche et le parti communiste avaient pris leurs précautions, à savoir ne pas lancer de petites phrases sur lesquelles la presse se jette pour jeter de l'huile à son tour sur un sujet qui est un sujet politique qui a toute sa place dans le débat, à savoir comment, quand on est gauche de gauche, quand on critique globalement sur une position anticapitaliste ce que fait le gouvernement Hollande, y compris au niveau surtout des promesses non tenues, eh bien, dans la perspective prochaine des élections municipales, eh bien, y a un débat qu'on peut dire un débat de tactique ou de stratégie que les partis mènent. Pour le front de gauche, eh bien, c'est clair. Le parti de gauche serait tenté par n'ayant très peu de représentants dans les municipalités, voudrait voir s'il peut provoquer un choc spectaculaire porté par Mélenchon et sa personnalité et son charisme et sa compétence politique pour percer dans les... Mais pour ça, il faut, selon le parti de gauche, que dans les grandes villes, il y ait vraiment des listes autonomes qui se démarque vraiment complètement de la politique actuellement menée par le gouvernement et les socialistes. Et puis il y a les communistes qui naturellement ont deux visées. Bon, par tradition, ils sont eux aussi pour des changements, mais bon, il y a longtemps que les communistes sont réformistes et qu'ils ont la pratique dans les municipalités, eh ben, d'essayer de tirer un peu plus vers ce que sont des objectifs sociaux, culturels. Et ça, ben, ils le faisaient avec ou grâce aux socialistes. Et c'était effectivement le problème qui est posé. Comment dénoncer à la fois les socialistes au gouvernement et puis tenter au plan local de faire un compromis avec ces mêmes socialistes sur la gouvernance des municipalités. C'est pas facile. Le Parti communiste ne voudrait pas sortir vraiment dépouillé de... Il a déjà perdu beaucoup de municipalités. Il voudrait pas que dans cet aspect des choses... Il y a pas seulement le désir de faire la clarté politique, mais il y a aussi un certain sentiment de conservation, comme c'est bon, un peu défendre les derniers vestiges de la citadelle communiste. Et donc tout ça, ça se mélange. Ça a été pas vraiment débattu, heureusement. La plupart des débats ont eu lieu sur ce qu'il faudrait faire pour effectivement que les choses changent réellement, sans forcément aller au-delà. Bon, il y a le programme qui est un programme anticapitaliste du Front de Gauche, mais sachant que faut faire un compromis parce que le rapport de force ne permet pas naturellement d'appliquer le programme du Front de Gauche en ce moment. Donc c'est ce débat, il a lieu, il va continuer à avoir lieu, et ça s'est beaucoup appuyé sur les convergences entre tout le monde, sur la retraite, sur les retraites, la retraite, y compris sur l'accord Europe-États-Unis, qui a été copieusement dénoncé sur l'absence de soutien aux Palestiniens, des choses comme ça qui ont fait que dans les travées des meetings et de l'humanité à la Courneuve, les choses se sont dites. Ce qui a été remarqué aussi, alors on ne sait pas pourquoi, les socialistes étaient invités, des membres du gouvernement étaient invités, et puis ils ne sont pas venus. Alors,
ils ont dû avoir des ordres.
Avec les socialistes.
Il y a quand même de la Noé qui est venue.
Importante. Et le dernier point que je voulais souligner, c'est que j'ai parlé des deux forces principales, mais il faut rappeler que le Front de Gauche, il y a un troisième pilier, c'est toutes les autres petites forces qui le Front de Gauche jouant une sorte de centre attractif, au sens de l'attraction. Ce sont actuellement au Front de Gauche, que ce soit les alternatives, que ce soit la Fédération pour une alternative, la FAS, que ce soit différentes petites composantes sorties progressivement soit de la LCR, soit du NPA, et qui elles-mêmes sont en train, non pas de se structurer pour faire un parti de plus, qui serait le troisième parti avec les deux autres partis, mais pour faire une sorte de confédération, ce qui permettrait déjà de simplifier pour les prises de parole, pour parler au nom de tous, alors que actuellement chacune de ces petites forces au sein du Front de Gauche s'exprime, et évidemment ça fait beaucoup de monde, ça fait 9 paroles qui s'expriment à l'intérieur du Front de Gauche, et effectivement c'est un problème pour être compris, pour être écouté, c'est certain. Mais sur ce troisième pilier, ça va continuer dans les prochains mois, et il est probable que, y compris avant la fin de l'année, il y a une sorte de structuration qu'on pourrait peut-être, ça pourrait ressembler à une sorte de confédération qui regroupe toutes ces petites forces, et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, constituerait le troisième pilier du Front de Gauche. Et on sait que c'est bien de marcher sur ces deux jambes, mais des fois une troisième jambe assez forte, eh bien, facilite les choses.
Bon, pas trop d'humour.
Voilà, je sais pas, tu voulais ajouter d'autres choses
peut-être. Non, je voulais parler
de ce qui s'est dit ou entendu.
De Pépère qui a été faire son discours de la fête de l'UMA sur TF1. Quoi. Et je sais pas, il paraît qu'il a eu 9 millions de téléspectateurs, je suis pas bien sûr, mais enfin, TF1 a toujours intérêt à avoir des statistiques favorables. Il est venu une fois de plus nous dire comment il était content de lui, comment il était beau, comment il faisait des choses bien. Tiens, un peu comme Gérard Collomb vendredi dernier aussi a passé une heure un matin sur une radio nationale dans le même registre, là, préparant ses élections municipales prochaines. Donc, Pépère content de lui, accusé d'être le président des patrons, a riposté en disant qu'il n'était que le président des entreprises. C'est bizarre, parce que nous, on croyait que c'était le président des Français. Ben non, finalement, il n'a pas été élu par les Français. Il a dû être élu par les entreprises. C'est un petit peu décevant. Alors, il a parlé d'international. On ne va pas trop revenir, puisqu'on a déjà évoqué ses positions à propos de l'affaire de la Syrie. Il a parlé des otages du Sahel, 3 ans quand même, jour pour jour, là, le 16 septembre aujourd'hui, que ces gens-là sont vivants et retenus là-bas, des travailleurs d'Areva et d'autres grands groupes industriels français qui, semble-t-il, ne veulent pas mettre à la poche le montant qui est réclamé pour les libérer. Enfin, il y a de l'espoir puisqu'ils sont vivants, nous dit-on. Il a annoncé un peu cavalièrement qu'il n'y avait plus d'augmentation d'impôts. Il ne doit pas acheter les mêmes choses que nous et il ne doit pas lire les mêmes journaux non plus. En tous les cas, il a bien confirmé qu'il ne bougerait pas la CSG, que le diesel, ça en reparlera peut-être des écolos, la fameuse taxe pour le moment ne serait pas mise en place, que la TVA, elle ne serait pas augmentée, à part qu'elle va passer à 20% au lieu de 19,6%. Alors, il a un argument imparable, Hollande, c'est que si Sarkozy était resté, il aurait passé à 21,6%. Donc, finalement, on a gagné 1,6%. Tous les bons commerçants savent faire ça, hein, les remises bidons, comme ça. N'empêche qu'elle va augmenter, cette TVA. Alors, il a quand même été un petit peu chagriné par les pleurs des plus démunis. Et du coup, pour les impôts, parce que la note a été salée, il va instaurer une décote sur la première tranche et une indexation sur les tranches en fonction de l'inflation quand même, sur le barème des tranches. Donc là, une légère redistribution. Par contre, vous souvenez que très martialement, il avait supprimé les non-impositions des heures sup. Ah, il les supprime toujours, sauf que pour le plus grand nombre, c'est-à-dire ceux qui ont les plus petits salaires, on va finalement rétablir cette suppression de taxation sur les heures sup. Mais il a oublié de parler d'un certain nombre de taxes diverses et variées qui n'arrêtent pas d'augmenter. Si vous êtes lyonnais et que vous avez reçu vos taxes foncières, par exemple, vous aurez pu noter qu'elle a pris 6% en un an. La taxe foncière à Lyon, une paille, hein, quand même, dans une période où, justement, le pouvoir d'achat a diminué de 1% en 2013. C'est l'INSEE qui nous l'annonce. Donc, voilà, un peu. Alors, on parlait de l'écologie et des Verts. Oui, Durand a mis la pression, là. Oh, il a lancé un ultimatum au gouvernement. Ça va barder. Sur la question, il a une semaine, Hollande, pour répondre à cet ultimatum sur la question de la taxe diesel, des diminutions de TVA sur les travaux d'isolation et la fermeture de Fessenheim. Il y en a un autre que tout ça énerve beaucoup, c'est ma mère qui commence à parler de démission des Verts si ça continue. Quant aux ministres, ils sont tellement bien là où ils sont, les ministres verts, qu'il n'est pas question qu'ils démissionnent. On peut penser que ça va finir par un arrangement à la politique, c'est-à-dire que les Verts vont laisser tomber la taxation sur diesel qui a beaucoup de conséquences sur le lobby des camions. Qui sait qui a envie de voir une grève générale des camionneurs en France? Personne. Hein, bon. Et par contre, ils pourraient se contenter des aides à la rémunération technique et d'autres petites bricoles comme ça qui les satisferaient et leur permettraient de ne pas apparaître trop compromis avec le pouvoir en place. Quoi. Voilà, tu avais peut-être quelque chose à ajouter, Hervé ?
Oui, on peut aussi évoquer les dures batailles qui se livrent à droite et en relation avec la tenue de l'université d'été du Front National à Marseille. Évidemment, je crois que les Le Pen Périfille avait bien choisi leur jour. Ils savaient que ce jour-là, bon, ils ne savaient pas quand ça a été fixé, ils savaient une chose, ils savaient que les médias allaient s'intéresser autant, voire plus à eux, qu'à la fête de l'humanité. Alors évidemment, ils ne savaient pas que Hollande allait également parler ce même dimanche. Et ouais, ils ont un sens au Front National avec la nouvelle équipe autour de Le Pen, Marine, de la com, d'une com efficace. Et effectivement, ça fonctionne. Bon, ça c'est. Bon, sur le contenu idéologique, rien de neuf. Sinon, la volonté de dire de continuer à obliger la droite de l'UMP à se défendre du front national, et donc finalement c'est à droite, c'est le Front National qui tient les règles du jeu. Et on l'a très bien vu avec cette affaire qui n'est pas terminée d'ailleurs, des déclarations de Fillon qui a semé le trouble et qui va...
Fossoyeur du Front Républicain.
Oui, qui va faire l'objet de débats demain, encore demain mardi à l'UMP, avec vote. Copé veut tenter d'éliminer une bonne fois pour toutes Fillon par un vote qui serait comme un vote de sanction, c'est-à-dire un refus de cette démarche de Fillon vis-à-vis de la prise en considération de ce que représentait l'électorat du Front National. Les sondages, effectivement, montrent, hélas, que le Front National est toujours à, on ne sait pas, entre 14 et 16 %, je crois que c'est ce qu'on lui donne actuellement. Bon, et semble-t-il, y a ces idées de ralliement déjà. Alors bon, il n'y a rien de spectaculaire, sauf quand on voit que quelqu'un qu'on a pu apprécier, si par exemple on aimait à une certaine époque le bébé de chaud.
Ah non,
mais on avait bien compris que c'était toujours ambigu, le bébé de chaud.
Oui, bon, oui, non, mais Roucas, il était facho depuis le début. Hein.
Mais c'était finalement, ça pouvait être aussi bien une causticité contre la gauche que contre la droite, et souvent contre la gauche. Et donc, Roucas et ses petites lunettes, Roucas, qui était donc du bébé de chou, a rejoint le front national. Bon, voilà.
Mais non, mais il a toujours été au Front National. Il faut pas être dupe, hein, Robert.
Des poissons que pêche sur le plan culturel.
Robert, tu m'entends pas.
Pêche le Front National. Et qui...
Bon, alors je vais continuer tout seul un petit peu parce que je vois que tu m'entends plus. Oui, Roucas, aucune illusion à avoir. Hein, ce type-là a toujours été de droite et d'extrême droite, donc il ne fait que revenir au bercail. Bon, quelques autres infos quand même que je voulais vous donner, à savoir qu'il y a une affaire d'assaut qui commence à sortir avec Mediapart, à savoir que Dassault, protégé par son statut de sénateur, là Mediapart lui balance un enregistrement qu'il a récupéré, un petit peu comme l'affaire Bettencourt, et dont qui prouverait que lui-même dit qu'il a versé 1,7 million pour acheter les voix pour faire élire son protégé à la mairie de Corbeil, et que l'affaire ayant été révélée, il y a eu une attaque par un certain Younef par balle sur deux personnes, et que le Younef en question est en fuite. Bref, c'est un nouveau scandale qui devrait demander qu'à s'étendre un petit peu avec l'introduction de la justice si l'affaire n'est pas étouffée, et maintenant ça semble difficile de l'étouffer. On dira quelques mots aussi des godières dont 4 ouvriers vont passer en procès. On se souvient des manifs de mars 2013 avec 500 manifestants, hein. Il s'agissait à l'époque de fermer une usine de 1200 personnes, et il y avait eu une manif devant le siège social de Rueil-Malmaison avec 4 des ouvriers blessés, mais aussi une vingtaine de flics. Aujourd'hui, ces gens, pour les exactions, paraît-il, réalisées dans ces manifs, passent au tribunal correctionnel, et ça mérite d'être suivi. Voilà, ce Canu Info se tire à sa fin, et je vais le terminer avec quelques infos culturelles, à savoir, vous souvenez bien sûr que le 11 septembre 1973, c'était... le coup d'État du Chili, et il y a un certain nombre de commémorations qui sont organisées autour de ça. Certaines ont déjà eu lieu le 11 septembre, mais du 17 au 29 septembre, au Centre culturel de la vie associative de Villeurbanne, il y aura une exposition d'affiches du comité de soutien à la lutte révolutionnaire du peuple chilien. Donc du 17 au 29 septembre. Et puis le samedi, cette semaine, samedi 21 septembre, au Parc des Droits de l'Homme, 56 rue du 1er mars 43 à Villeurbanne, une fête chilienne en célébration du jour de l'indépendance. Côté musique, si vous êtes dans les très très anciens, vous vous souvenez sûrement de l'ouverture du cimetière de Loyasse il y a 200 ans. On va commémorer l'événement, donc les nécrophages peuvent se précipiter. Il y aura 5 séances de concert. La première, c'est ce dimanche 22, de 14h30 à 17h. Un concert donc animé, c'est un concert narratif en fait, hein, par le FDA Quartet, donc avec déambulation et commentaires sur le cimetière. Voilà, ce Canu Info se termine, il sera rediffusé demain matin à 8h. Vous pouvez également l'entendre sur Internet et je vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de Radio Canu. Ne quittez pas l'antenne.